Conférence de fin d'année 2023 à Fountain Valley. Réunion 10, première partie. Commençons par lire Apocalypse 3, versets 1 à 6. C'est très court, 6 versets. On change le mot ange en messager. Oui. Un autre mot pour ange, c'est messager. Écris au messager de l'église à Sardes. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Je pense qu'on sait tous quel est le problème ici. Je crois que dans certaines Bibles, il y a une en-tête. C'est une église morte. Une église morte. Oui, mais il est dit ici que le Seigneur leur a montré qu'ils passent pour être vivants et qu'ils sont morts. C'est une chose terrible. Si le Seigneur nous dit, en tant qu'Église, que nous sommes vivants, morts. La mort, c'est la pire condition qu'on puisse avoir. Parce que, individuellement parlant, tu peux être malade, tu peux avoir des problèmes de santé, mais une fois que tu es mort, c'est fini. Il n'y a pas de retour. C'est fini. Et c'est vraiment une condition triste. Et la pire chose au sujet de la mort, c'est que tu ne le sais même pas que tu es mort. Ce dont je veux parler ici, c'est que le Seigneur, au début de chacune de ses épîtres, il présente un aspect de lui-même dont l'Église a besoin pour l'Église. Et la condition, ce qu'ils ont besoin de lui, c'est, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. C'est ce dont ils ont besoin de sa part, parce que l'Esprit du Seigneur est vie. Dans Jean 6, il est dit, on connaît ce verset, Jean 6, 63, c'est l'Esprit qui donne la vie. Si nous manquons d'esprit, si l'esprit n'est pas là, il y a un vrai problème. L'Église est censée être la maison du Dieu vivant. C'est le Dieu vivant. Ainsi, si l'Église est la maison du Dieu vivant, comment peut-elle être morte? Ça n'a pas de sens. Ça ne peut pas être comme ça. Si Christ est mort pour nous sauver du péché et de la mort, le pire, c'est que chaque chrétien c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour nous donner la vie éternelle. Oui, pour nous donner la vie éternelle, afin qu'on ne périsse pas, mais qu'on ait la vie éternelle. C'est pour cela qu'il est venu. Il est venu pour nous donner cela. Donc on doit être amené de la mort à la vie. Ainsi, comment le peuple de Dieu peut-il être mort? C'est simplement pas juste, bien sûr. On sait tous que c'est pas juste, mais il est dit ici, je connais tes œuvres. Donc elles ont des œuvres. C'est même pas qu'ils ne font rien. Tu passes pour être vivant et tu es mort. Cela montre qu'ils ne sont même pas conscients de leur propre condition. Je voulais mentionner en fait au sujet des étoiles aussi qu'il a les 7 étoiles. Les 7 étoiles. Et cela dit, si les messagers des églises ne sont pas reconnus comme étant dans la main droite de Christ, alors ils commenceront à faire ce qu'ils pensent être juste et ça va amener l'Église dans la mort. Si on reste dans l'autorité de Christ, pleinement soumise à lui, alors on se sauvera de ce problème parce que Christ est vie. Mais lorsque nous-mêmes on devient la tête, on pense qu'on sait mieux. On se déconnecte de l'autorité de Christ. Alors, la mort commence à venir. C'est pourquoi on voit déjà dans la première épître, ils ont abandonné leur premier amour à Pergame. Ils ont compromis, fait des compromis. Puis c'est devenu Thyatire. Même Jézabel, il la tolère. Ils n'ont plus de sensation. Lorsque tu es mort, je ne pense pas qu'un mort, je ne sais pas, parce que je n'ai jamais été mort, mais je ne pense pas que tu sens quoi que ce soit. J'imagine que c'est comme ça. Biologiquement parlant, tu n'as aucune sensation. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Ainsi, lorsque tu es mort, si ça, c'est mort, je peux le pousser. Il ne peut pas partir de moi. C'est mort. Mais si je suis vivant, moi, en tant que personne, je suis vivant, je peux voir, je peux entendre, je peux toucher, j'ai des sensations. Et en plus, quand on est vivant, on peut répondre à Dieu. On peut avoir cette sensation quand on réalise que quelque chose est pécheur ou que ça nous souille, on a cette sensation. Parce qu'intérieurement, on sait que quelque chose est faux. Je parlais à un nouveau récemment. En fait, c'est pas un croyant. Je lui ai dit, une chose dont tu ne vas jamais, que tu ne vas jamais pouvoir lire dans tes livres de biologie, c'est que en nous, il y a une partie qui a la sensation, cette connexion, cette capacité d'entendre Dieu et de voir. Ça, tu ne vas jamais le lire dans les livres de biologie. La science ne peut pas en parler. Il y a un autre sens à l'intérieur de nous. Ça, c'est pour connaître les choses de Dieu. On doit vraiment prendre soin de ce sentiment. Comme on verra plus tard, ça peut facilement être souillé. C'est un grand problème. Ainsi, ce problème ici, il passe pour être vivant, mais ils sont morts. à nouveau. Ça veut dire qu'ils ne réalisent même pas qu'ils ont un problème, qu'ils sont morts. Ils disent « Nous sommes vivants, nous sommes. Nous sommes ceux qui suivent Christ, nous aimons Christ, nous sommes l'Église. » C'est comme ça qu'on aime parler parfois. Nous sommes celui-ci. Et si t'es pas avec nous, eh ben t'es pas dedans. Est-ce que c'est pas parfois ce qu'on aime dire? Et c'est très dangereux. Comment sais-tu que vraiment tu es encore vivant? Une église ne peut pas être morte. Ils ne peuvent pas garder leur chandelier très longtemps. Ce n'est pas possible, parce que l'Église doit représenter le royaume de Dieu. Il doit représenter Christ sur la terre. Ça doit être un chandelier brillant en or. Les incroyants, comment peuvent-ils avoir un sentiment pour le royaume de Dieu si l'Église est morte, s'ils ne voient pas? On ne peut pas accomplir ce qu'on est censé faire, c'est-à-dire d'être un témoignage de Christ sur cette terre. Mais si on continue à dire, si on ne réalise même pas notre condition et qu'on dit juste « on est vivant, viens chez nous pour la vie ». Nous sommes vivants. Viens dans l'Église. Nous sommes le peuple de Dieu. Mais alors, lorsque les gens viennent, que voient-ils? Vraiment, est-ce qu'ils goûtent la vie dans l'Église? Ce n'est pas au sujet de ce que nous disons. Il ne s'agit pas de déclarer certaines choses. Ce qui est important, c'est quelle est notre vraie condition. Et on doit vraiment demander au Seigneur de nous montrer. Et humblement, on doit accepter ce qu'il nous dit, même si c'est difficile à accepter. S'il y a la mort, il faut qu'on l'accepte et qu'on ne se trompe pas nous-mêmes. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas de temps à perdre. Il faut absolument traiter cela. Il est dit ici, c'est égal ce qu'on dit de nous-mêmes. Ce qui est important, c'est ce que le Seigneur reconnaît. Aujourd'hui, tu peux t'appeler n'importe comment. Je peux dire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je peux dire que je suis un chien ou un chat. Mais ça, c'est la folie de ce monde. Mais nous faisons la même chose. On croit qu'on est vivant, mais on ne réalise même pas notre condition parfois. Ainsi, c'est égal comment on s'appelle nous-mêmes, ce qu'on dit de nous. Mais on demande au Seigneur, quelle est ton opinion de l'Église à Fountain Valley, à Sunnyvale? Quelle est ton opinion? De quoi est-ce qu'on manque encore? Et on continue. Il est dit, verset 2. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Je regardais d'autres traductions qui disent il est mentionné qu'aucune de tes œuvres ne sont parfaites ou acceptables devant mon Dieu. Peut-être qu'ils ne sont pas encore complètement morts, mais en partie, ils sont prêts de mourir. Il y a encore une chance de les sauver. Ainsi le Seigneur leur dit, une chose que je pensais, c'est des expériences que j'ai eues pendant ces dernières années. Lorsqu'une église est morte, parce qu'ils ont perdu cette sensation de l'esprit, ils ont perdu la connexion, ils n'ont plus le sentiment, Ils ne discernent plus ce qui est vivant et mort, et qu'il n'y a plus de lumière. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ils compensent, ils amènent d'autres choses. Par exemple, ils vont poursuivre des choses comme des missions ou que les gens soient excités, et ils excitent leurs émotions. Ils recherchent des doctrines, des choses comme ça, parce qu'ils n'ont plus la vie. Donc, ils doivent se remplir avec autre chose. Ainsi, les gens se sentent excités, les réunions sont très vivantes, et ils pensent qu'ils sont vivants, mais en fait, ils sont morts. Et je me souviens, il y a des années, il y avait un temps, où je faisais des visites de différentes églises, il y a très longtemps. Je viens d'un groupe où c'était vraiment, vraiment ennuyeux. Super ennuyeux. On était tous entraînés à s'asseoir dans une réunion super inintéressante. Même si tu faisais tes efforts pour comprendre ce que le prédicateur disait, ce n'était pas possible. En tant que chrétien, on pensait que c'était notre devoir d'être aux réunions. Mais en dehors des réunions, les gens, ils n'étaient pas différents de ceux du monde. Ils parlaient de la carrière, de cinéma, ils parlaient de leur jouissance dans le monde et des choses du monde. Et année après année, il n'y avait pas de changement. Aucun changement dans personne. Une fois que je suis partie de là, je suis allée dans un autre groupe où il y avait beaucoup de jeunes gens. Parce que j'étais jeune à cette époque. C'était des jeunes. C'était très vivant. Il y avait de la musique, tout le monde était sur ses pieds, il louait le Seigneur. J'avais le sentiment que c'était bien. Tout le monde était si heureux. Et au début, on aurait pu dire qu'il y avait beaucoup de vie. Il y avait beaucoup d'énergie. Mais après un moment, à me réunir là, j'ai commencé à sentir une sécheresse en moi. C'était difficile à expliquer. Les réunions étaient excitantes, mais j'étais vide. Il semblait que je mourais intérieurement. Et finalement, je me suis sentie si sec. J'ai réalisé quel était le problème. C'est qu'il n'y avait pas de nourriture. Il n'y avait pas de nourriture. J'étais en train de mourir de faim. Finalement, j'ai dû partir. Ces apparences extérieures, c'est ce que nous, on a l'impression que doit être une réunion vivante. Mais est-ce que vraiment le Seigneur est là? Est-ce que les saints sont nourris? Une chose qu'on peut dire, que quelque chose est vivant, par exemple, si une personne ou un animal est vivant, c'est pas seulement qu'il bouge, mais tu peux voir un changement. La vie grandit. Ça, c'est pas une vraie plante, donc elle va pas grandir. Tu n'as pas besoin de l'arroser. Mais une vraie plante va croître. Et c'est la même chose pour les chrétiens. S'il y a la vie, si on demeure dans cette vie, il y aura la croissance. Et dans Jean 15, on est tous familiers. Jean 15, versets 4 et 5. Le Seigneur parle en termes très simples. Il dit, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ainsi, s'il y a la vie dans l'Église, si nous croissons dans cette vie, il y aura des changements dans notre vie, il y aura des fruits, il y aura de la transformation. Parce qu'on doit être semblable à l'image de Christ. On ne doit pas rester comme on est. Il faut qu'on change. Notre vie chrétienne, c'est une vie. Et la vie doit croître. Et si elle croît, il y a des changements qui se passent. Ça veut dire qu'il faut une transformation. Ma vieille nature doit graduellement disparaître. La manière dont je fais, dont je pense, doit s'en aller. Pas par mes efforts, mais par la croissance de la vie. Mon amour pour le Seigneur doit croître. Mon amour pour les saints doit croître. Ça, c'est des évidences. C'est ce dont on a parlé en juillet. S'il y a la vie, il y aura des évidences de la vie. Les gens qui regardent dans l'espace, ils cherchent la vie. Ils cherchent des bactéries, ils disent « Ah, c'est la vie ». Mais qu'en est-il de l'évidence de notre vie chrétienne ? Y a-t-il des évidences ? Si je suis de plus en plus ennuyée par les frères et sœurs, si je ne suis pas intéressée par le Seigneur, je n'ai pas d'intérêt pour la parole. Je trouve que c'est un livre inintéressant. Je préfère mes amis terrestres. Je pense à mon compte en banque tout le temps. Alors où est la vie? Vous savez, j'ai réalisé une chose. Dans cette vie que le Seigneur a mis dans l'univers, nous sommes dans cette bataille spirituelle entre Dieu et Satan. Tout ce qui est associé à Dieu est vie et nous amène à la vie. Tout ce qui est de Satan, c'est la mort. Il a fait que le péché entre dans l'homme et le péché amène la mort. Tout mène à la mort. Ainsi, si progressivement on est amené à pécher, à la mort, alors ça veut dire qu'on est sur le mauvais chemin. On se dirige vers la mort. Le fait que tu sois ici et que je sois ici, j'espère que ça veut dire que tout n'est pas encore mort. J'ai encore quelque chose qui reste, mais le Seigneur nous donne maintenant une chance de nous retourner. Je n'ai pas rejeté le Seigneur complètement. Et j'espère que je ne le ferai jamais. Mais en fait, mon amour pour lui doit croître de plus en plus. Mon amour pour les frères et sœurs doit croître. Une fois, quelqu'un m'a demandé, est-ce que c'est OK pour quelqu'un d'être juste un chrétien tout seul? Est-ce que c'est OK? J'ai dit, ils ne sont pas très sociaux. Si quelqu'un croit spirituellement, naturellement, ils seront amenés à la communion. Ils désireront la communion avec les frères et sœurs. C'est quelque chose de naturel. Tu ne seras pas amené à t'isoler de plus en plus parce que la vie en moi et la vie en toi veut édifier l'Église du Seigneur, veut qu'on soit joints ensemble. En esprit. Ton amour pour les autres croîtra et ne décroîtra pas. Si ça décroît, ça montre que quelque chose est faux. Ce que j'ai réalisé en lisant cela, c'est que le Seigneur est très miséricordieux pour nous. Il nous donne encore un chemin pour nous tourner. Il essaye de nous montrer où il y a encore la mort. Il est dit ici, même les œuvres, souvent ne sont pas parfaites, elles ne sont pas complètes. Qui sait comment elles ont été faites? Peut-être que c'est fait de ta propre initiative, de ta propre sagesse, mais pas en esprit. Ce n'est pas l'esprit qui t'a conduit. Alors quel est le résultat? Ce sont des œuvres mortes. Ça ne va pas amener le royaume de Dieu. Ça ne va pas amener qui que ce soit à grandir et à changer. Si je mentionnais que la condition de l'Église, c'est la mort, lorsque j'étais dans ce groupe à me réunir avec eux, souvent, ils voulaient augmenter leur nombre, ils disaient, ils nous encourageaient à inviter nos amis. Mais je vous le dis, j'ai pas invité mes amis là. Parce qu'ils auraient été ennuyés à mort. Tout le monde était mort. Donc ils auraient été ennuyés à mort et tués spirituellement. Et ça, c'est l'autre problème. Si l'Église n'est pas pleine de vie, même les nouveaux, lorsqu'ils croient, est-ce qu'on les amène à grandir et à connaître le Seigneur? Y a-t-il vraiment une croissance qui les transforme? Ou est-ce qu'ils remplissent leur tête de plus d'informations? On peut arriver même à les tuer. On lit aussi au sujet du sacerdoce à Toronto. Et j'ai réalisé à ce sujet, je crois que c'était dans Exode 34, 1,35. Non, chapitre 40, il est dit que tout dans le tabernacle devait être dressé. Il commence par le verset 9. Tu prendras l'huile d'onction, tu en oindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme, et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles, et il sera saint. Verset 10. Tu oindras l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, et tu sanctifieras l'autel, et l'autel sera très saint. Tu oindras la cuve avec sa base, et tu la sanctifieras. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation, et tu les laveras avec de l'eau. Tout devait être oint avec cette huile d'onction sainte. Tout devait être rempli de l'esprit. L'esprit doit être en toute chose. Il n'y a rien qui manque. Ainsi, on parle de l'Église. Peut-être qu'on peut se concentrer sur les sacerdoces et les fêtes, mais premièrement, les sacrificateurs devaient être saints et oints. Tout devait être oint par cette huile d'onction. Ça veut dire que premièrement, tout doit avoir l'esprit. Il n'y a pas de place pour nous-mêmes dans l'Église, pour notre vieil homme. Puis, de nouveau dans Apocalypse 3, verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Garde et repens-toi. J'apprécie vraiment quand on parlait de Thyatire et de Jézabel, j'ai pensé, oh c'est si terrible. Mais il dit encore qu'on peut avoir cette chance de se repentir devant le Seigneur. C'est vrai. On ne peut pas dire, oh, c'est ok d'être une église morte. On ne peut pas rester dans cette condition. Le Seigneur veut qu'on se retourne. Et je réalise une chose. Pour se retourner vers le Seigneur, c'est vraiment de demeurer en lui. Chacun de nous doit avoir une marche intime avec lui. On doit le connaître. On doit le manger et le boire. Notre relation avec le Seigneur doit être très intime, très proche. Si ça, ça manque dans l'Église, alors tout sera affecté. Mais je remercie le Seigneur qu'il y ait un chemin pour qu'on se repente. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Ça, c'est le problème. Quand tu es mort, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu n'as aucune idée. Les morts ne savent pas ce qui se passe autour d'eux, je suis presque sûre. Non, je suis vraiment sûre. Je suis vraiment sûre qu'ils ne savent pas. Ainsi, tu ne sais pas si tu es mort spirituellement, que le Seigneur va revenir, que ce temps est très proche. Parce que si tu es mort spirituellement, tu ne vas pas veiller. Tu seras trop occupé par ta propre vie dans le monde. Tu seras trop occupé à faire ce qui te rend heureux, joyeux, à trouver tes propres plaisirs, ce que tu désires, ce que tu penses être bien pour Dieu. Tu ne veilleras pas. C'est vraiment une condition très sérieuse. Être mort, comme j'ai dit, c'est vraiment le pire. Physiquement, c'est le pire. Et spirituellement, c'est vraiment mauvais. Mais on doit vraiment faire attention et se retourner. Heureusement, il y en a quelques-uns, au verset 4, quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Les vêtements, les sacrificateurs devaient être vêtus de blanc. Ce sont les œuvres justes des saints, mais la mort, c'est comme une tache. Peut-être que je ne suis pas complètement mort, mais j'ai peut-être quelques taches. Tu sais quelle est la pire couleur à porter quand tu manges des spaghettis? C'est le blanc, parce que tu as des taches. Chu Chang ne mange pas des spaghettis. C'est vraiment dangereux. Peut-être que tu as une petite tache. Mais cette petite tache de mort te souille déjà. Ça souille. Le sacrificateur n'avait jamais le droit de s'approcher de quelque chose de mort. La mort devait être évitée à tout prix. Comment peux-tu aller en présence du Dieu vivant si tu as eu du contact avec la mort? La mort et la vie sont opposées. Ainsi, c'est vraiment un avertissement pour nous qu'on ne peut pas se permettre d'être contaminé d'aucune manière. La mort, souvent, est très subtile. Ça peut être un tout petit péché. Tu tolères un petit péché dans notre vie. L'envie. Je ne sais pas de quoi d'autre, de haine, de colère. Quelque chose dans notre cœur. C'est juste dans notre cœur. Contre un frère ou une sœur. Ou de la convoitise. L'amour du monde. Quelque chose qui s'infiltre. Ça, c'est déjà une souillure. Ainsi, rapidement, on doit prendre Christ comme offrande pour le péché. Pour ôter cela. On doit vraiment faire attention parce qu'on veut cette récompense. On veut cette récompense de marcher avec lui en blanc. Si notre souverain sacrificateur est habillé de blanc, nous aussi. Et on doit être avec lui en tant que roi et sacrificateur, alors on doit aussi être habillé de blanc. Mais pour maintenir cette condition, on doit être si sensible, notre conscience doit être si sensible, de savoir s'il y a un péché qui s'infiltre ou s'il y a de la mort par là. C'est pourquoi, pendant la réunion des jeunes, on parlait de se garder propre, séparé. Un très bon chemin. Le Seigneur nous a donné dans notre cœur un avertissement, notre conscience. Elle peut nous avertir que tu es avec des gens qui emploient des mots sales ou qui font des choses inappropriées ou peu importe. Par exemple, même sur TikTok, il y a tant de choses terribles. Si tu regardes cela et que tu les écoutes, tu sens quelque chose en toi qui te dérange. L'alarme se met à sonner et dit « ce n'est pas bon ». Quelque chose est faux ici. Qu'est-ce que tu dis ? Oh, ça fait rien, continue. Je veux encore vérifier ça. Et tu écoutes cela. Le Seigneur nous a donné un chemin. Il nous a mis aussi dans le corps. Ça, c'est aussi un très bon verset. Donc, 1 Corinthiens 15. Il dit quelque chose. Au sujet de la compagnie qu'on a. C'est le verset 33. 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et c'est vrai. Si on s'entoure des saints, c'est pourquoi les conférences sont si bonnes, si saines. Parce qu'on est entouré de gens qui poursuivent le royaume, le sacerdoce. C'est comme une protection. Mais si tu t'entoures de mauvaise compagnie, ça va souiller notre vêtement. Et là, pire, c'est que plus on fait cela, plus ce système d'alarme sonne et que tu n'y réponds pas, il va devenir de plus en plus faible. Sois tranquille, Seigneur, tais-toi, ne m'embête pas. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Tu es souillé. La mort entre. Le péché amène toujours la mort. Et si tu ne le traites pas, le péché, lorsqu'il est pleinement mûr, amène la mort. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné tant de chemins pour nous protéger. Imagine, si l'environnement de l'Église est mort, on a perdu notre protection. Ces quelques personnes dont les habits ne sont pas souillés, c'est pas étonnant que ce soit que quelques-uns, mais tant mieux pour eux. Ça doit pas être facile. Ne pense pas, je peux être comme ces quelques-uns. Non, c'est possible que non. Mais c'est pourquoi les étoiles, les messagers des églises sont si importants. On doit faire très attention de quelle est la condition de l'église et protéger les saints et prier pour les saints, pour les guider et être sûr qu'on donne les bons messages pour aider les saints à aller à la vie, être un exemple. Mais si les messagers sont dans la mort, dans le péché, alors ça, c'est pas bon pour l'Église. C'est pourquoi j'apprécie qu'il mentionne les sept églises. Mais nous voulons cette récompense. Il dit : celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Ça, c'est glorieux. Je n'effacerai point son nom. Les sacrificateurs, pendant le royaume du mille ans, je ne peux pas imaginer qu'ils portent une autre couleur. Je pense pas que tu porteras du noir ou une autre couleur. Probablement, tu porteras du blanc. On veut avoir ce vêtement blanc. Et il dit, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et comme on a mentionné plus tôt, ça ne veut pas dire que tu perds ton salut. C'est très important à se souvenir. Tu ne vas jamais perdre ton salut. Pourquoi? Comment est-ce qu'on sait cela? Parce que Dieu va toujours finir ce qu'il a commencé. Il ne commence pas quelque chose en toi, puis, oh, tu es mauvais maintenant. Salut. Ça veut dire, c'est comme si Dieu admettait qu'il avait fait une faute en te choisissant. Dieu ne fait jamais de faute. Quand il nous a appelés, il nous a appelés. Et il va terminer l'œuvre qu'il a commencée. Et on est scellé du Saint-Esprit. C'est une garantie de notre héritage. Le sceau n'est pas temporaire. Il ne dira pas, oh, je vais enlever le sceau de Sam parce qu'il a fait quelque chose de mauvais. Je vais enlever le sceau de l'esprit. Et en plus, on est fils de Dieu. Dieu ne va pas dire, ah, aujourd'hui tu es mon fils, demain tu ne l'es plus. On est né de Dieu. Maintenant, nous sommes fils de Dieu. Ainsi, c'est certainement pas qui va nous effacer de manière permanente. C'est temporaire. Ça veut dire qu'on va tester, qu'on va goûter la seconde mort. Comme on a lu dans 1 Corinthiens 3, le salut, c'est par le feu. Il y a un goût de la seconde mort. Mais au contraire, on veut que le Seigneur confesse notre nom devant son Père et devant ses anges. Imagine, parfois tu es au travail et ils disent, oh John Yao, tu as fait du bon travail ces 6 derniers mois. Tu vas te dire, oh c'est très bien, j'ai été reconnu par mon chef. Mais imagine que tu es reconnu par le roi des rois et qu'il confesse ton nom devant Dieu, devant le Dieu Tout-Puissant et devant ses anges. Est-ce que ce n'est pas ça qu'on désire? Que le Seigneur nous confesse notre nom. Et qu'il dise, voici mon fidèle serviteur, bon et fidèle serviteur. Ça m'est égal si je suis reconnu par ma compagnie ou mon école ou n'importe quoi. Non, même si je le suis, ça n'a aucune importance. C'est bien égal. Tout accomplissement terrestre, mondain, passe. Mais être confessé par le Seigneur, ça c'est vraiment ce qu'on veut. Être habillé de blanc, ça c'est glorieux. Mais plus que tout, on doit vraiment faire attention à notre condition. J'encourage chacun de nous à faire attention. Tu ne vas pas remarquer que tu es mort, mais il y a des symptômes de mort. Et on doit regarder à ces symptômes. Exactement comme quand on grandit dans la vie, il y a des signes qu'on grandit. La vie, ça ne veut pas dire que je saute dans les réunions. Mais ça veut dire que je grandis dans ma relation avec le Seigneur. Je suis plus transformée. Il y a plus d'amour en moi. Ah ça, on doit vraiment faire attention à cela. Et prendre cet avertissement au sérieux.